7h, 8h, les jardinières.
Entre canicule et orage, on ne sait plus sur quel pied danser et comment gérer le potager. Rassurez-vous, nous allons vous aider. Bienvenue chez les jardinières. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène, on danse sous la pluie, non, tout simplement.
Ouais, puis on prend sa douche en même temps.
Exactement.
Et pour nous accompagner ce matin et répondre à vos questions jardinage, nous sommes en compagnie de Fabrice Rondet. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Fabrice Rondet, vous êtes paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-en-Truy. Merci d'être avec nous ce matin.
Et merci à vous d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
La semaine écoulée nous en a fait voir de toutes les couleurs. Les températures caniculaires ont laissé la place aux orages. Fabrice, le week-end s'annonce un peu mitigé entre pluie et soleil, mais plutôt chaud. On fait quoi au potager ?
Ah, on va pas faire grand chose parce que malheureusement la terre est assez détrempée. Et puis travailler la terre quand elle est trop détrempée, trop mouillée, on fait jamais un très très bon travail. Donc on va faire plutôt un travail de préparation, un petit peu de ce qui s'est déjà bien développé, comme par exemple tailler les tomates ou alors les tuteurer pour que ça se passe bien, contrôler s'il y a pas de dégâts avec ces pluies au niveau des petites plantations, enlever les plus grosses des mauvaises herbes, et puis peut-être réfléchir sur les futurs semis, ce qu'on va planter pour pallier à ce qu'on a déjà commencé de récolter, et puis remplir les carrés, et puis faire évoluer ce jardin comme ça jusqu'à la fin de la saison.
Merci beaucoup Fabrice. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h et vous allez évidemment répondre aux questions au jardinage de nos auditeurs. Et pour poser ces questions, vous avez comme toujours trois possibilités, rien ne change. Par téléphone au 0900 170 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire via le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émissions questions aux jardinières et là vous pouvez même y joindre une photo. Ou encore par SMS, vous tapez jardin un espace suivi de votre question et ce message vous nous l'envoyez au 939.
Dans la suite des jardinières, Fabrice nous donnera quelques bons conseils pour que nos végétaux supportent au mieux la canicule. Et nous parlerons aussi des tomates, le légume star de l'été.
7h, 8h, les jardinières.
Les épisodes de forte chaleur et de canicule se répètent de plus en plus fréquemment. Le potager ne supporte pas de tels excès, exactement comme le jardinier qui fuira cette situation et cherchera au plus vite à se mettre à l'abri, boire, éviter tout effort. Voyons comment...
Boire de l'eau, hein.
Oui, bah bien sûr, comme le jardin. Voyons comment anticiper, se préparer, s'adapter à ces périodes de sécheresse et de canicule qui peuvent vite mettre à mal nos cultures. Notre sauveur des potagers ce matin, eh bien c'est Fabrice. Et pour commencer Fabrice, on le sait, un bon arrosage est le plus important. Mais dites-nous, c'est quoi exactement un bon arrosage ?
Un bon arrosage, c'est tout simplement... Le début, si on a la possibilité, c'est de faire une récupération d'eau, donc d'avoir de l'eau de pluie, d'avoir pas de l'eau du réseau, ça c'est déjà pas mal. Et puis après, c'est d'avoir un arrosage régulier également, et pas de détremper le terrain, le laisser sécher, le détremper. Ce qu'il faudrait, c'est être régulier dans l'arrosage. Laisser à peine ressuyer en surface, et puis avoir un fond au niveau de la racine qui soit toujours humide, sans être, bien sûr, comme on l'a dit, trop mouillé. Donc, ce qui permet à la plante de ne pas s'asphyxier non plus parce que le terrain est trop mouillé.
On en a également souvent parlé. Il y a le paillage qui est aussi une bonne solution pour garder un sol humide. Est-ce qu'on peut le mettre en place en ce moment, Fabrice ?
Alors, c'est pas tellement l'époque qui est importante, c'est surtout par rapport au développement du plant. Donc, on laisse s'enraciner comme il faut les jeunes plantules. Et puis après, on peut mettre ce paillage en place parce que le paillage est égal aussi à une petite maison, si on veut, pour certaines bestioles comme les limaces. Et puis après, si on met un paillage trop rapidement en place avec des jeunes plantules, on pourrait très vite se retrouver avec quelque chose qui pourrait vite ravager nos cultures. Donc une fois qu'une plante s'est bien développée, on met un paillage en place et là, nos plantes souffriront moins et on arrivera mieux à contrôler tout ça.
Et puis, en préparant cette émission, Fabrice, vous nous avez parlé de sarclage. Alors, en faisant quelques recherches, nous avons appris que c'était enlever les mauvaises herbes, c'est exact ?
Alors, en fait, effectivement, on sait que la mauvaise herbe pousse tout le temps sur une terre de bonne qualité. Et puis, par le sarclage, ce qu'on va faire aussi, c'est pas seulement désherber, mais on va également décrouter la couche superficielle du terrain, ce qui va permettre à notre terrain de pomper comme une éponge cette eau, plutôt que si on a un sol qui est croûté, qu'elle ne ruisselle en surface pour se retrouver sur les bas-côtés de la plate-bande.
Fabrice, quand le soleil tape et qu'il fait très chaud, nous les humains, nous cherchons de l'ombre. Est-ce que mettre des voilages ou des parasols dans son potager, c'est une bonne idée ?
Non, il est toujours mieux, je pense, de regarder justement à apporter l'eau qu'il faut pour que les plantes reprennent vite de la vigueur. Donc, installer toute une infrastructure sur les plantes, suivant le type de jardin qu'on a, ben, effectivement, ça pourrait vite être compliqué vu la surface qu'on pourrait avoir au sol. Mais après, si on a juste un ou deux pots, comme ça, si c'est un jardin de balcon, des choses comme ça, oui, ça, on peut le faire. Mais sur un jardin de 20, 30, 40, 50 mètres carrés, voire plus, il est difficile de mettre toutes ces plantes à l'ombre.
Donc si on a un jardin sur son balcon, puis qu'on a un store et qu'on le descend parce que nous on n'aime pas le soleil, ça ne sera pas un préjudice pour les plantes ?
Si c'est que sur quelques jours, sur les jours comme on a eu précédemment, c'est qu'on a eu des températures très élevées, avec pas un nuage dans le ciel, oui effectivement ça ne va pas porter préjudice.
Juste après la pause, Fabrice, nous verrons comment occuper nos plants de tomates en été. À tout de suite.
7h, 8h, les jardinières.
Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy, est l'invité des jardinières. Et ce matin, il nous aide à supporter la canicule. Enfin, il aide nos potagers à la supporter. On va s'intéresser de plus près aux besoins des tomates. Des conseils utiles aussi pour les poivrons, les aubergines ou encore les piments. Fabrice, on entend souvent que les tomates, pour être en forme, doivent avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Alors, est-ce que cette citation populaire est juste ?
Alors, c'est un petit... Il faut faire attention parce que il faut pas interpréter à la lettre ce que vous venez de dire. Il faut avoir toujours un contrôle de l'humidité au niveau des sols. Et puis en fait, on sait aussi que ces plantes, c'est pas vraiment la lumière, le soleil qui les intéresse, c'est plutôt la chaleur. Donc effectivement, si on arrive à réguler l'endroit à l'abri des courants, pas en direct contact avec l'humidité de la pluie ou de l'arrosage, en tout cas pas quand on arrose mouiller ces plantes à cause des maladies qu'on pourrait développer, et d'avoir aussi au niveau du terrain plutôt une humidité régulière en laissant ressuyer à peine en surface, voire sécher le sol et remouiller tout de suite, un, deux jours après, là, on aura quelque chose de bien qui va se passer.
Mais pour avoir de belles tomates, il n'y a pas que l'arrosage. Hein, le sol est important, il doit être riche. Fabrice, expliquez-nous quel genre de sol a besoin un plant de tomate.
Alors effectivement, là, ce qu'il nous faut, c'est enrichir nos sols d'une façon constante parce que nos cultures vont les épuiser année après année. Et puis avec ça, au moment de la plantation, on peut déjà faire des apports soit de compost, certaines personnes vont mettre des poignées d'ortie au fond du trou, ou alors en surface, après, on peut mettre en place des engrais bio ou du compost de nouveau, mettre un paillage de compost également, ce qui permettra d'avoir ces apports en éléments nutritifs tout au long de la saison du développement de la plante, parce qu'on a quand même des variétés qui veulent se développer à 2 mètres, 2 mètres 50 pour les plus fortes sans problème.
Parce que si on a un mauvais sol, ça peut aussi donner des maladies aux tomates. Je pense à la maladie du cul noir, comme son nom l'indique, le bas de la tomate noircie. Est-ce que vous avez des conseils pour éviter ça ?
Alors c'est pas vraiment une maladie, c'est une nécrose. Et puis ces nécroses, ce cul noir en fait, il est provoqué par plusieurs choses. Il peut être provoqué par des soleils de plomb, c'est que le calcium n'est pas pris parce que le terrain le bloque un petit peu. Et puis on peut avoir aussi ce problème qui se met en place par un arrosage irrégulier. On peut avoir ce problème aussi parce qu'on a des apports d'engrais trop importants. Donc de là, on revient de nouveau au fait d'arroser régulièrement, de ne pas être excessif au niveau de l'engrais, et puis de ne pas mouiller de nouveau les plantes. Et pour les apports de calcium, on peut faire appel à des choses assez simples comme des coquilles de broyer, de la cendre, ou alors on peut même apporter du lait dilué dans l'eau sur un, deux arrosages à intervalles de une, deux fois par semaine, et on peut remonter comme ça ce problème.
Mylène, on parlait tout à l'heure, hein, avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil, c'est un dicton, mais est-ce qu'il faut protéger la tomate du soleil, Fabrice ?
Alors pas vraiment du soleil, de nouveau, c'est plutôt de l'eau, comme maintenant par exemple, si on avait une culture qui était, on l'a vu l'année passée, on a eu des cultures qui ont été sous l'eau pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois au niveau des pluies, et là on a tout de suite des cultures qui se sont retrouvées au mois de juillet, août arrachées parce qu'elles étaient complètement malades. Donc en fait les abris à tomates qu'on va utiliser, qui vont de l'abri simple à tomates fait maison, celui qu'on achète, voire un tunnel ou une serre, et là en fait pour protéger le plant de ces pluies qui pourraient tomber trop régulièrement. Et de là aussi, de nouveau, pas arroser les feuillages quand on arrose nos plantes.
Non, on espère quand même qu'il n'y aura pas trop de pluie cet été. On lit oui. ou on entend souvent qu'il faut couper les gourmands des tomates. Est-ce que ça aussi, ça aide le plant de tomate à mieux supporter l'été? Genre la plante, elle a moins d'efforts à faire car elle a moins de feuilles à nourrir.
Alors là, on a deux écoles. On a des gens qui disent non, faut pas tailler parce qu'en taillant, on peut affaiblir le plant, la plante va mal cicatriser, on peut favoriser la venue de maladies. Mais en fait, de tailler un plant de tomate, c'est la même chose que tailler un fruitier. On va favoriser le passage, si on a un abri à tomate de nouveau, une serre ou un tunnel, on va favoriser la circulation de l'air dans la plante. Donc, on va pas avoir ces microclimats avec trop d'humidité dans la serre. Et puis après aussi, en taillant tous ces gourmands, on va enlever des grappes de fleurs. En enlevant des grappes de fleurs, on aura moins de fruits. En enlevant une quantité de fruits, les fruits qu'on va sélectionner seront d'un calibre supérieur et de meilleure qualité. Donc oui, c'est important, je pense moi, de pratiquer cette taille des tomates. Moi, c'est ce que je fais. Et en fait, ce qu'on peut s'apercevoir assez régulièrement dès le bas âge de la plante, c'est qu'on a une plante tout de suite qui devient très trapue. Donc, elle a une meilleure tenue également.
Merci beaucoup, Fabrice. Maintenant, il vous suffit de mettre vos conseils en place. À nous, à vous, chers auditeurs, et de patienter un peu devant de manger une bonne salade de tomates. Mylène, je vous laisse préparer la sauce.
Oui, et puis si on n'a pas de tomates dans son jardin, on va voir Fabrice. Fabrice, ça vous va?
Pourquoi pas?
Place à la musique tout de suite, la météo et l'inforoute. Les jardinières reviennent juste après et nous répondrons à vos questions. On va peut-être rapidement, Raphaël, répéter comment poser une question.
Avec le formulaire que l'on trouve sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous nous envoyez tout ce petit monde au 939 ou alors encore plus simplement, d'ici quelques minutes, vous nous appelez au 0901 70 20 20.
Les jardinières.
Suite des jardinières, nous sommes toujours en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-en-Truy. Et il est prêt à répondre à vos questions.
Les questions que l'on attend, comme toujours, vous nous appelez maintenant pour poser votre question à notre professionnel au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous serez en direct avec nous et vous aurez la chance de parler avec Fabrice en direct. Si vous êtes plus timide, vous pouvez le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question. Ce petit monde, vous nous l'envoyez au 939. Vous pouvez le faire par le formulaire disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet questions aux jardinières avec la possibilité là d'y joindre une photo.
Et nous avons une question qui parle des orages, Fabrice.
Cette saison.
Oui, c'est de semaine même. Non, hebdomadaire, voilà. Les orages de cette semaine ont fait plier nos tournesols. Les troncs ne sont pas cassés. Est-ce qu'on peut mettre un tuteur pour les aider à se redresser?
Oui, je pense que cette personne a la bonne réponse. Avant d'aller au point de rupture, il faut vite s'occuper pour les plants les plus faibles de mettre un bon bout, les attacher à un ou deux points, voire trois points suivant la longueur de la plante pour pas aller à la rupture. S'il continue de pleuvoir comme ça, effectivement, c'est une plante qui peut charger en eau au niveau des feuilles et on peut aller jusqu'à cette rupture.
Et si, par exemple, c'est d'autres plantes, en fait, le tournesol, il a besoin d'être grand et beau pour avoir une belle fleur, mais par exemple, des oignons qui auront aussi ramassé la pluie cette semaine sont tout pliés, là aussi, on doit les aider à se redresser ou on peut les laisser comme ça?
Alors pour les légumes les plus bas, comme tout ce qui est peut-être oignons, poireaux, les choux, tout ce qu'on a de traditionnel dans nos jardins, le reste pourra s'en sortir sans problème. Non, on va pas s'occuper à tuteurer toutes ces choses-là.
La suite, on va prendre cette question que l'on vient de recevoir de Sophie qui voudrait diviser son pied de rhubarbe en deux, mais elle ne sait pas à quelle période la diviser. Est-ce qu'il faut y mettre de l'engrais chaque année et quoi ?
Alors tout simplement un compost de jardin ira très très bien. Et puis pour le diviser, ce qui serait mieux de faire, c'est d'attendre le repos végétatif, donc de faire ça à partir de octobre, novembre jusqu'à mars. Et puis à ce moment-là, prendre une bêche, on va sortir la motte et on va regarder pour trancher, pour avoir deux parties équivalentes sans essayer de trop blesser les racines, pour en refaire deux plantes ou trois plantes suivant la force de la plante.
Merci Fabrice. On va parler un peu fleurs de courgettes. On aime beaucoup manger les fleurs de courgettes, mais si je prends les fleurs, est-ce que j'aurai quand même les légumes ensuite? C'est une très bonne question, je trouve.
Oui, alors ça, il n'y a pas de problème. C'est plus simple qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, les courgettes possèdent deux types de fleurs, des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc, on va regarder tout simplement à prélever les fleurs mâles. Et puis, pour différencier, c'est aussi très facile. Une fleur mâle est portée, en fait, par une petite tige, alors que la fleur de courgette femelle, la fleur se développe au bout d'un petit renflement qui ressemble à une mini courgette. Et puis, comme ça, on fait bien la différence très rapidement et puis on aura une production.
Et si on se trompe, on n'a plus de courgettes.
Ah, si on se trompe là, effectivement, la production, elle sera bien compromise.
Mais au goût, une fleur mâle ou une fleur femelle, c'est pareil?
Elles sont toutes les deux comestibles, oui, je pense.
Merci ouais. Fabrice, on va pas faire une petite pause musicale, mais avant, je vous propose, Raphaël, de rappeler... Comment nous joindre?
Mais oui, parce qu'on attend vos appels 0901 70 20 20. Vous nous appelez, vous posez votre question en direct à Fabrice. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous nous envoyez ce message au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet.
7h, 8h, Les Jardinières.
Les Jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Vous avez jusqu'à 8h pour poser vos questions à notre spécialiste. Ce matin, nous sommes en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy. Et si vous avez envie de poser des questions, c'est comme ça que ça se passe.
0901 70 20 20, vous nous appelez, vous êtes en direct avec nous et Fabrice répond à l'instantané à votre question. Vous pouvez également le faire par SMS, vous tapez le mot jardin, un espace suivi de votre question, vous nous envoyez ce message au 939 ou par notre formulaire qui est disponible sur notre site internet, vous allez sous l'onglet émission, question aux jardinières et là vous pouvez même y joindre une photo.
On va parler un peu de sureau, Fabrice, nous avons un sureau dans notre jardin, il devient très grand, quand pouvons-nous le tailler?
Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Normalement, si on veut faire une belle taille de formation, d'entretien, ça, il faudrait le faire en repos végétatif. On va le faire entre novembre et mars. Et puis après, ce qu'on peut faire, s'il est sur un passage qui nous embête un petit peu, soit pour le passage de la tondeuse ou bien parce que voilà quoi, il est trop près d'un chemin, on peut tailler en verre tout au long de la saison pour le garder dans un volume qui ne nous gêne pas dans sa périphérie.
Merci beaucoup Fabrice. Autre question, je vous propose d'enchaîner avec des limaces qui attaquent nos fraisiers. Que faire ?
Alors ça, il y a le réflexe traditionnel d'utiliser un anti-limace. Après, on a des pièges à limaces qu'on peut mettre en place aussi. C'est un bocal avec de la bière dedans. On peut mettre aussi un carton.
C'est pas de la bière, les limaces.
Non, c'est pour les limaces, c'est pas pour le jardin.
ça, oui, c'est peut-être mieux. Après, un deux jours, c'est peut-être pas terrible. Après, on a la possibilité de mettre un carton où c'est qu'elles veulent aller se réfugier dessous. Puis après, on peut en faire un prélèvement tout simplement comme ça. Et puis après, il y en a qui vont faire tout simplement la chasse pièce par pièce. Mais là, si on n'est pas assez rapide, elles auront raison de nos petites fraises.
Parce qu'il y a d'autres animaux aussi qui aiment les fraises, je pense aux hérissons. Est-ce que si on met par exemple ces pièges à limaces ou des produits anti-limaces, est-ce que c'est dangereux pour les autres mammifères?
Alors bien sûr, il ne faut pas utiliser n'importe quoi, mais il y a des anti-limaces qui sont justement plus adaptés et puis qui protègent un petit peu les autres animaux qui cohabitent dans le jardin.
De la fraise à la framboise, il n'y a qu'un pas que je vous propose de franchir ce matin, Fabrice. L'année dernière, nous n'avons eu que très peu de framboises. Est-ce qu'il faut le tailler pour imaginer avoir plus cet été ?
Alors le framboisier, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de framboisiers. On a au niveau de la taille, on a une catégorie de framboises qu'on va tailler à 5 cm du sol à la sortie des gelées. Et puis là, c'est une framboise qui va se développer uniquement sur les pousses d'un an. Et après, on a les variétés qu'on va devoir tailler et on va prélever, en fait, on va préserver en fait toutes les pousses d'une année. Et cette framboise-là va se développer sur des pousses de 2 ans. Donc on va supprimer les pousses qui ont produit, qui ont 2 ans et plus. Donc après, pour ça, l'année passée aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une été qui était assez mouillée.
Différent.
Oui, très différent. On a eu un été qui était assez mouillé pour commencer et puis qui a un petit peu pas favorisé les choses au développement. Et après, on a eu une petite période de chaud, de sec, ce qui fait que les fruits ont séché. Ils n'ont pas pu se développer correctement. Donc cette année, on espère que les choses soient un peu différentes et puis qu'on ait une fructification qui se mette en place, qui a l'air de prendre le chemin pour l'instant.
Merci beaucoup Fabrice, on va parler de topinambour. Nous avions planté une plate-bande de topinambour qui repousse chaque année. On aimerait supprimer cette plante, à part le faire à la main. Avez-vous des suggestions ?
C'est assez compliqué parce qu'effectivement le topinambour c'est une plante qui peut être invasive parce qu'elle se développe fortement et puis elle ne cesse de prendre un petit peu de la place. Il pourrait même suffire qu'une souris grignote et puis on laisse tomber par-ci par-là en sauvant et puis c'est parti pour agrandir encore un petit peu le carré. Non, je pense qu'effectivement dans un premier temps ce qu'il faudrait pouvoir faire pour ceux qui vont démarrer une culture comme ça c'est plutôt de cercler ou de planter dans un très grand pot pour contenir cette culture. Et puis pour cette personne dans cette plate-bande, je pense qu'il n'y a que le travail qui est assez pénible, mais qui peut être beaucoup plus précis que de le faire à la main à bêcher, puis aller chercher un maximum et puis après d'éliminer au fur et à mesure ce qui repousse.
Merci beaucoup Fabrice pour tous vos précieux conseils. On vous retrouve encore une dernière fois d'ici quelques minutes pour la suite et la fin des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Dernière partie des jardinières. En première partie d'émission, Fabrice nous a donné des conseils pour que notre jardin passe l'été dans les meilleures conditions possibles.
Faut-il rater ?
Et supporte au mieux la canicule. Oh là, je pense que j'ai eu un coup de chaud déjà ce matin. Et on a aussi parlé des tomates, comment bien s'en occuper. Fabrice, avant de vous laisser filer, dites-nous c'est quoi le programme du jardinier ce week-end ?
Oui, moi je pense, comme on a dit avant, c'est qu'on va contrôler un petit peu le désherbage, on va faire des tâches superficielles, pas trop en tout cas aller travailler la terre, style si on avait à bêcher, sarcler, des choses comme ça, parce que la terre étant très lourde, très collante, on va pas faire un bon travail de finition. Donc on va laisser ressuyer un petit peu cette terre, une journée avec des températures moyennes, un petit courant d'air, et puis plutôt remettre ça dans 24 heures ou 48 heures s'il ne pleut pas entre.
Fabrice, on le remarque également un petit peu partout dans nos jardins. On voit que le gazon est passablement jaunâtre à cause des chaleurs. Maintenant qu'il a plu, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre gazon retrouve un peu une couleur d'été ?
Alors on a les possibilités déjà de le tondre s'il était tondu trop bas, donc de rehausser la hauteur de coupe vers 4-5 cm de hauteur, donc ce qui va un petit peu le préserver, ça va lui permettre de reprendre du poil de la bête. Si on n'a pas mis d'engrais tous ces derniers temps, on peut mettre un coup d'engrais, on a des engrais bio, on a des engrais classiques, donc privilégier peut-être les engrais bio. Et puis après on a des scarifications, si on avait un terrain de très mauvaise qualité puis que le gazon avait forcément pris, ce qu'on peut faire c'est faire une scarification, faire un sursemis pour lui permettre de reboucher tous ses trous, c'est qu'il aurait pu avoir plus que jauni, mais peut-être même séché complètement si la racine avait cuit.
Et puis avec cette herbe qu'on aura coupée, est-ce qu'on peut pailler nos plants de tomates pour qu'ils restent au frais ?
Alors, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se faire. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas que ça chauffe non plus. Donc, vaut mieux utiliser peut-être de la paille ou alors un compost, quelque chose comme ça, qu'un matériau vert, où c'est qu'on peut par fermentation monter en température et puis provoquer des dégâts.
Qu'est-ce qui fait que cette pelouse et ce gazon deviennent jaunes ? C'est le mauvais moment, c'est au moment où on passe la tondeuse, qu'on a mal choisi son moment, ou c'est parce qu'il y a eu ces grosses chaleurs, hein ?
On peut avoir déjà la nature du sol. Si on a un terrain qui est faible en hauteur au niveau de sa bonne composition de terre végétale, que tout de suite derrière on a une caillasse à 10-15 cm, on peut avoir un sol qui est très drainant, et puis au premier coup de chaud, au premier coup de sec, et ben tout ça se retrouve asséché, et la racine donc n'a plus la possibilité d'hydrater le gazon, donc il va jaunir. Après, on a aussi un autre phénomène que certaines personnes aiment, c'est d'avoir un gazon bien court, bien propre. Donc le fait de le couper à 2-3 cm sur un terrain comme ça peut aussi provoquer rapidement un jaunissement. Après, on peut avoir aussi des sols qui sont très argileux. Donc les sols très argileux, ben, ils deviennent durs comme une surface en pavage. Et puis de là, de nouveau, les échanges au niveau de l'eau ont du mal de se pratiquer parce que dans un premier temps, on aura un ruissellement. Mais puis après, ce gazon, il peut aussi très rapidement jaunir. Donc ce qu'il faudrait faire dans un cas comme ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est scarifier, redéfragmenter un petit peu la partie supérieure du gazon, refaire un sursemis, apporter un petit coup d'engrais, et puis ce gazon il devrait reverdir très rapidement.
Merci beaucoup Fabrice pour vos nombreux conseils. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-en-Truy. On vous souhaite un bel été Fabrice.
Alors à vous aussi, à tout le monde, et puis de bonnes vacances bientôt pour tout le monde.
Merci Fabrice pour tous vos conseils au cours de ces dernières années chez les jardinières. C'était un plaisir de vous avoir en notre compagnie, parce que c'était votre dernière avec nous, hein, et c'est important de vous remercier au nom de toute
l'équipe. C'était un plaisir partagé, je vous remercie.
Et on vous souhaite une très belle suite et de bonnes vacances. Et bien justement, en parlant de vacances, la semaine prochaine, c'est la DER des jardinières avant la pause estivale. Nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, et de Raphaël, bien sûr.
Ah bon, je ne suis pas encore demain.
Bon week-end, Raphaël d'ailleurs. Et bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve samedi prochain.
7h, 8h, les jardinières.